Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires. Canus en 2.2, on vous le disait, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission de groupe local de l'Union Communiste Libertaire, et on est ensemble pendant une heure durant laquelle on va faire un petit peu le tour de l'actualité, mais on commence avec nos traditionnelles annonces et rendez-vous de lutte.
Et oui, salut David, salut tout le monde. On commence les annonces avec un triste anniversaire, puisque voilà un an que le jeune Naël a été assassiné par un policier d'une balle dans la tête alors qu'il était au volant d'une voiture à l'arrêt. Le contexte politique en France actuellement, il n'est pas réjouissant. Et si l'extrême droite venait à l'emporter dans les semaines qui viennent, on peut parier que la police sera en roue libre et que l'IGPN sera plus aveugle que jamais. Un contexte sombre donc pour commémorer le meurtre de ce jeune homme tué le 27 juin 2023. Mais un contexte qui doit nous pousser à nous réunir, à nous rassembler. Et justement, il y aura un rassemblement demain, jeudi 27 à 18h. Ce sera Place Guichard, et c'est en mémoire de Naël et de toutes les autres personnes assassinées par l'État et sa police raciste. Et puis les 27 et 28 juin se tiendront aussi les assises de la protection de l'enfance à Lyon. C'est pas ici un appel pour y aller qu'on annonce, au contraire, David, je crois que tu vas nous en parler un peu.
Bah oui, puisque tu nous parles de Naël et de tous les autres mineurs en danger, bah justement, il y a une mobilisation demain pour défendre la protection de l'enfance, mineurs en danger, stop au sabotage de la protection de l'enfance. C'est à l'appel de nombreux syndicats, Sud et CGT, mais aussi de collectifs qui interviennent du côté des mineurs en danger, que ce soit le collectif Soutien Migrants, le collectif Jamais Sans Toi, ou le collectif Solidarité Entre Femmes à la Rue. Et on en parlera un peu plus tard dans l'émission, on reviendra sur les raisons de cette mobilisation pour la protection de l'enfance, mais en tout cas il y a demain jeudi 27 juin il y a un rassemblement à 10h devant le palais des congrès de Lyon, qui se trouve 50 quai Charles de Gaulle à Lyon. À midi, il y a un pique-nique revendicatif avec des prises de parole qui ont lieu, et puis à 13h30 il y a une manifestation qui se mettra en route tranquillement, manifestation jusqu'à la préfecture, et qui convergera avec qui visera d'arriver à 15h à la préfecture, où a lieu une autre mobilisation dont on vous parlera au cours de cette émission, une mobilisation à l'appel de l'UDCGT 69 du Rhône, une mobilisation pour la défense de l'assurance chômage contre la réforme catastrophique, violente et antisociale de la réforme de l'assurance chômage. Rassemblement donc à 15h quai aux gagneurs sur les quai devant la préfecture, où convergera donc la manifestation pour la protection de l'enfance qui arrivera. Voilà, deux thèmes importants, la réforme de l'assurance chômage, on en parlera notamment un peu plus tard dans cette émission Idées Noires.
Et puis toujours dans ce contexte de montée du fascisme, hein, le vendredi 28 juin après-demain, donc, plusieurs organisations, dont l'UCL, appellent à une manifestation au départ de la place des Terreaux à 19h. Bon, inutile de rappeler l'urgence de contrer la montée de l'extrême droite. Et puis ça sera déjà longuement évoqué pendant cette émission, vous en doutez. Donc voilà, la prochaine manifestation contre l'extrême droite, à l'appel de plusieurs organisations, notamment syndicales et politiques, ce sera vendredi après-demain à 19h, place des Terreaux.
Oui, bien sûr, on peut. Manifestation qui est à l'origine à l'appel du collectif Fermons les locaux fascistes, mmh. dont Rémi, tu nous feras part d'une bonne nouvelle aussi, un peu plus tard, puisqu'ils sont au cœur de l'actualité. En effet, cette manifestation, elle s'inscrit dans toutes celles qui ont lieu depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée. Hein, l'extrême droite veut prendre le pouvoir, il est temps de résister. Et ça passe par notamment des formes d'occupation de la rue. Nous ne leur laisserons pas la rue, la rue ne leur appartient pas. Et on multiplie les rendez-vous pour se rassembler, pour manifester. T'as raison, ce vendredi, c'est un large cartel d'associations, d'organisations politiques comme l'UCL, de syndicats comme Solidaires, la CNT, qui la FSU aussi dans l'éducation, qui appelle à participer à cette manifestation. Donc, comme tu l'as dit, 19h, place des Terreaux. On espère qu'encore une fois, celle-ci, elle sera massive. On espère que celle-ci, elle sera massive parce que malheureusement, on pouvait commencer cette idée noire que par ça. Rappeler que raciste, autoritaire et violent, le RN, contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est pas le RN contre le Front Populaire, la peste contre le choléra, mais les choses sont très simples, c'est le RN tout seul qui est à la fois la peste et le choléra. On sait que la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce donc des élections ce dimanche 30 juin et le 7 juillet prochain entraînent une véritable menace du Rassemblement national au pouvoir. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche que ça que de prendre le pouvoir. Et on sait aussi que l'extrême droite aux commandes, c'est un programme autoritaire, raciste, sexiste, libéral, et qui renforce bien sûr les inégalités en poursuivant la destruction des services publics, ce qu'on ne peut pas accepter, ce qu'on ne peut pas laisser faire. On sait aussi que l'extrême droite, quand elle prend le pouvoir par les urnes, souvent elle ne le rend pas, que les partis d'extrême droite revendiquent d'être élus démocratiquement pour justifier l'application de leur programme, mais que dans la réalité, en fait, ils cherchent d'abord à garantir leur propre pouvoir. On l'a bien vu aux États-Unis, ou au Brésil, où des groupes fascistes ont tenté un coup d'État après leur défaite aux élections. Et comme Poutine, les chefs d'État d'extrême droite truquent les élections pour se maintenir au pouvoir. On a l'exemple de la Hongrie avec Viktor Orban qui a assis son pouvoir par le contrôle sur les médias et sur les facs. Et puis pour garder le pouvoir, le Rassemblement National a déjà affirmé qu'ils allaient vouloir modifier la Constitution et mettre les médias publics aux ordres de Bolloré. Du coup, c'est un message à diffuser, c'est quelque chose qui est très clair. Voter pour le Rassemblement National, c'est abandonner tout espoir de démocratie. Parce que le RN au pouvoir dans la 5e République, c'est tout simplement une catastrophe pour les libertés. Le RN au pouvoir, il pourrait s'appuyer sur une 5e République qui est déjà autoritaire par nature. On se rappelle dans sa fondation gaullienne, une république présidentielle, ce qui lui facilitera l'application de ses politiques racistes et antisociales. On sait que le RN au pouvoir, il écraserait les oppositions en réduisant les libertés politiques, les libertés de la presse ou d'association, le droit de grève, comme il l'a fait par exemple dans les villes qu'il a déjà conquis à une plus petite échelle. Et puis le RN au pouvoir, c'est tout simplement un risque majeur pour les syndicats de lutte qu'il a toujours essayé de remplacer par des syndicats corporatistes et nationalistes. Et de plus, le contrôle de la justice et des préfectures pourrait lui permettre de verrouiller son contrôle sur l'appareil d'État. Et au niveau répressif, le RN au pouvoir, c'est la garantie tout simplement d'une explosion des violences policières. Rémi, tu faisais référence à la mort du jeune Naël il y a pile un an, malheureusement des Naël, il y en a déjà eu beaucoup trop, et avec le RN au pouvoir, il risque d'y en avoir bien plus encore. Et puis, bien évidemment, on se doute bien que le RN au pouvoir, c'est simplement donner une carte blanche pour laisser la violence fasciste de rue être complètement débridée. On sait qu'autour du RN se trouvent de nombreux groupuscules fascistes qui accomplissent pour lui le travail de harcèlement contre les forces progressistes. Ils sont présents sur tout le territoire, ils multiplient les violences et les agressions. On a vu que par exemple le soir des élections européennes et dans les jours qui ont suivi, des agressions fascistes se sont multipliées, parfois même sous le regard passif des forces d'un soi-disant ordre républicain. Et si le RN était au pouvoir, les groupes de rue agresseront en toute impunité, un peu plus encore. Et ça serait la véritable insécurité, ça serait bien celle-ci, celle du danger fasciste dans les rues. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est face à cette extrême droite, que faire? On peut se le demander. Si nous, à l'Union communiste libertaire, on appelle sans illusion ni scrupule à voter pour les listes du nouveau Front populaire pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, bah, nous savons que les extrêmes droites ne reculeront que devant un mouvement social fort, offensif et uni, que par une action collective et sociale. C'est pas un simple bulletin dans l'urne qui fera reculer le FN, ça peut tout simplement l'empêcher d'arriver au pouvoir et nous permettre de garantir nos libertés individuelles et collectives un peu plus longtemps. Mais c'est un mouvement collectif et social qui pourra permettre de réellement faire taire la peste brune. Et pour ça, il est important de rejoindre dans un premier temps toutes les mobilisations unitaires de rue, telles cette manifestation dont on a parlé ce vendredi à 19h, place des Terreaux à Lyon, qu'il est important de renforcer l'unité à la base dans nos syndicats, dans nos associations, dans nos collectifs thématiques, qu'il est important de réaffirmer partout une solidarité indéfectible avec toutes les personnes qui sont ciblées par les politiques de l'extrême droite. Et puis, il est aussi important de se rassembler dans des collectifs antifascistes existants et de les développer. Et puis, au-delà de ça, il est aussi important, tout simplement, de rejoindre des organisations politiques qui s'opposent radicalement et fermement à l'extrême droite, telle la nôtre, telle l'Union communiste libertaire, pour œuvrer à reprendre le pouvoir par nous-mêmes et à construire une société plus juste, plus libertaire et plus égalitaire. En tout cas, on sait que c'est partout et c'est dès maintenant que l'urgence est de s'organiser pour discuter et agir sur notre lieu de travail, dans nos quartiers, dans la rue, avec ceux qui nous entourent, pour construire des espaces démocratiques qui sont nécessaires à notre classe et à la défense de ses intérêts. Aujourd'hui, il y a un front populaire contre les réactionnaires, il faut que demain il y ait une révolution sociale contre le capital. C'est tout ce qu'on peut souhaiter et c'est ce à quoi l'UCL va s'engager et va œuvrer très clairement et le plus possible dans les jours et dans les semaines à venir. On rappellera que si on peut l'espérer, même si ça semble loin d'être gagné, si le nouveau Front Populaire arrivait au pouvoir avec une majorité absolue, ça pourrait être un feu vert pour les mobilisations sociales importantes. On rappellera que ce nouveau Front Populaire, bien sûr, par son nom, il fait référence au Front Populaire de 1936, mais qu'en 1936, ni les congés payés, ni la réduction du temps de travail, la semaine de 40 heures, n'étaient inscrits dans le programme du Front Populaire de l'époque, et que c'est bien les mobilisations sociales qui ont suivi l'élection de ce Front Populaire en mai 1936, les mobilisations sociales qui ont fait qu'en juin 1936, c'est plus de 2 millions de salariés qui se sont mis en grève et qui ont occupé leur lieu de travail. C'est par la grève générale, c'est la grève générale qui a fait gagner toutes les conquêtes sociales qu'on évoquait, semaine de 40 heures, congés payés, contrats collectifs, que le gouvernement de Front Populaire n'a fait que courir après les événements, et c'est seulement un mouvement social fort qui permettra de construire une alternative d'une part au libéralisme, mais plus largement une alternative au fascisme. Pour nous, c'est la priorité. Dans un premier temps, stoppons et empêchons le fascisme d'arriver au pouvoir, et ensuite développons un mouvement social qui soit capable d'inverser la tendance, de renverser la vapeur et de construire une véritable alternative sociale pour notre classe, pour nos intérêts, dans la rue, par la grève, par l'action collective, et qui permettra de gagner de nouveaux droits. Voilà ce qu'on voulait dire dans ce sombre contexte actuel où le danger de la peste brune plane au-dessus de nos têtes. On espère que les mauvais jours vont s'éloigner et que les semaines à venir seront plus clémentes et ouvriront la voie à la construction d'un mouvement social. Mais heureusement, parfois, il y a des petits éclairs de lumière, il y a peut-être quelques petites bonnes nouvelles sur le front de la bête immonde.
Ouais, je voulais avant la fin, enfin pour cette dernière émission avant les élections législatives, je voulais faire une petite chronique bonne nouvelle, et je vais pas vous cacher que j'ai un peu galéré pour en trouver en ce moment, mais heureusement Gérald Darmanin est arrivé à notre secours, si on peut dire, puisque ces bonnes nouvelles sont principalement les dissolutions du groupe Les Remparts, et de l'association qui gère aussi les locaux de La Traboule, ainsi que de Top Sport Lyon, c'est la structure qui gère la salle de boxe La Gaugée. Alors on lit par-ci par-là que c'est du fait du ministre de l'Intérieur, l'abject Darmanin, mais nous on préfère saluer le travail d'organisation de lutte, comme par exemple l'Interorga Fermons les locaux fascistes, dont tu parlais tout à l'heure David, qui travaille depuis des années à faire fermer ces lieux dans lesquels les fascistes se retrouvent, s'organisent et se rassemblent pour partir en bande dans des ratonnades, des destructions, des attaques contre les LGBTI ou tout ce qu'ils considèrent comme immigrés ou gauchistes. Grâce à la pression citoyenne, donc, telle que celle du collectif Fermons les locaux fascistes, le gouvernement a donc décidé de dissoudre ces trois structures terreaux de l'extrême droite lyonnaise. L'État considère notamment, je cite, que le groupement Les Remparts tient un discours provoquant la haine, un discours provoquant à la discrimination et à la violence à l'encontre des étrangers, en développant un discours axé sur la défense de la race et l'incompatibilité entre islam et civilisation occidentale. Le décret de dissolution rappelle par exemple que le 11 novembre 2023, une quarantaine de militants d'ultra-droite cagoulés et armés de barres de fer, parmi lesquels des membres des Remparts, ont attaqué un local associatif lyonnais où se tenait une conférence sur la Palestine, faisant ainsi 7 blessés, dont 3 graves. Le décret dit aussi que le 25 novembre 2023, de 60 à 80 militants d'ultra-droite se sont rassemblés à Romans-sur-Isère afin d'y mener une expédition punitive suite à la mort d'un jeune homme à Crépol, et que le lendemain, une nouvelle expédition punitive menée dans cette ville, au cours de laquelle 2 militants des Remparts ont été contrôlés. Alors évidemment, notre cher maire Grégory Doucet se félicite de cette victoire. Il rappelle qu'il a fait plusieurs demandes en ce sens entre 2022 et 2023. Demandes infructueuses, hein, bien évidemment, qui rappellent celles de Bruno Le Maire faites aux entreprises. On pourrait lui rétorquer que lui-même n'avait pas agi au niveau local pour pousser à la fermeture des locaux sur lesquels la mairie pouvait pourtant agir, et qu'il a préféré attendre que l'État s'en mêle. Mais bon, on n'est pas là pour diviser, hein, à l'heure de l'union des gauches, on ne va pas gâcher la fête. Alors certes, la Traboule, la Gaugée et les Remparts, on le rappelle, ne sont rien d'autre que la résurgence de Génération Identitaire, qui a également été dissous récemment, et on pourrait croire que tout ça ne changera rien, que les fachos reviendront sous un autre nom, mais ce coup-ci, on peut espérer enfin que leurs locaux soient définitivement fermés et qu'on leur enlève des véritables structures matérielles qui leur permettent de s'organiser. Mais bon, ça va demander à Grégory Doucet de prendre ses responsabilités. L'autre bonne nouvelle, elle concerne la dissolution du GUD, le groupe Union Défense, qui rassemble des étudiants d'extrême droite depuis les années 70. Comme le dit le journal de Monde, Le Monde, davantage qu'un sigle, le GUD représente une véritable matrice historique de la contestation étudiante d'extrême droite, régulièrement mise en sommeil, puis réactivée. Le GUD, on le sait, hein, c'est le bras armé du RN, c'est celui qui s'occupe de la violence de rue, celle qu'on connaît un peu trop bien ici à Lyon. Par exemple, on peut lire dans Libé que la semaine dernière, 4 militants d'ultra-droite, bah, ils utilisent quand même encore le terme ultra-droite alors qu'il s'agit simplement d'extrême droite, hein, même que celle de Marine Le Pen. Ces 4 militants ont été condamnés pour leur participation à une agression homophobe à Paris, alors qu'ils fêtaient entre guillemets la victoire du RN aux élections européennes. Et c'est pendant cette agression qu'a été prononcée l'horrible phrase « Vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut ». Et parmi eux se trouvait Gabriel Lousteau, 23 ans, une figure bien connue du GUD, et fils d'Axel Lousteau, ancien militant guidard lui aussi, et ex-élu RN et proche de Marine Le Pen. Frédéric Chatillon, ex-président du GUD, est également un ami de longue date de Marine Le Pen. Le GUD comptait aussi dans ses rangs Loïc Le Priol. C'est celui qui a assassiné en mars 2021 en plein Paris, avec une arme à feu, l'ancien international de rugby argentin Federico Martín Aramburu. Voilà, on vous a donc dit qu'il s'agissait de bonnes nouvelles, et oui, on peut s'en réjouir, mais dans un pays normal, il ne s'agirait pas là de bonnes nouvelles, mais simplement de nouvelles normales. Enfin bon, on fait avec ce qu'on nous donne, et ça doit nous rappeler que la lutte ne s'arrête jamais. Et en parlant de lutte qui ne s'arrête jamais, une autre bonne nouvelle, entre guillemets, on peut saluer la persévérance sur un tout autre registre, hein, pardon de passer du coq à l'âne, saluer la persévérance des grévistes dans plusieurs communautés Emmaüs, puisque ça fait un an, presque jour pour jour, qu'ils et elles sont en lutte pour faire reconnaître leurs droits, pour des conditions de travail décentes et pour une vie digne. Mauvais traitement et harcèlement, voilà ce que vivent ces gens qui travaillent dans une association censée aider les plus démunis. Dans la communauté Emmaüs de la Halte Saint-Jean, à Saint-André-les-Lille, près de Lille donc, on parle même de travail dissimulé, et un procès a été ouvert le 13 juin, donc ce mois-ci. Le président de cette antenne d'Emmaüs risque 2000 euros d'amende et un an de prison avec sursis, et sa directrice 3000 euros d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Tous et toutes en situation irrégulière et en grève depuis juillet 2023, Les travailleurs et travailleuses dénoncent des conditions de travail harassantes à raison de 40 heures par semaine et pour certains depuis plusieurs années, ainsi que des promesses de régularisation qui se font toujours attendre. Alors ces gens-là ont un statut un peu particulier puisqu'ils ne sont pas considérés comme des salariés mais comme des personnes qui pratiquent une activité solidaire et qui en retour bénéficient d'un logement, de nourriture et d'une rétribution et non d'un salaire. Alors depuis 2008, il y a bien un statut d'organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire sous l'acronyme OACAS qui a été imaginé par les pouvoirs publics. C'était censé leur offrir une protection sociale avec des arrêts de travail, des droits à la retraite ou par exemple une reconnaissance des accidents de travail. Sauf que voilà, plusieurs communautés Emmaüs ont refusé ce statut à leurs travailleurs et travailleuses, notamment la communauté de la Halte Saint-Jean. Les personnes qui travaillent pour cette structure ont donc moins de droits que les autres et subissent des conditions de travail indignes. Mais ce qui est indigne aussi, c'est de refuser un statut un peu moins précaire à des travailleurs et des travailleuses quand on est une structure censée, encore une fois, aider les plus démunis. Donc longue vie à ces grévistes, hein, que leur combat judiciaire leur soit favorable et on aura une réponse normalement le 5 juillet prochain. Voilà donc pour cette petite page qu'on aurait finalement dû intituler les nouvelles pas si mauvaises.
Eh bien, on va faire une première page musicale dans cette émission Idées Noires. Malheureusement, si ces quelques nouvelles nous réjouissent, comme on le disait, c'est quand même de sombres nuages bruns qui planent sur nos têtes. On vous le rappelle, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. L'extrême droite, le RN, c'est la peste et le choléra réunis. On vous rappelle cette manifestation vendredi 19h, place des Terreaux, manifestation unitaire à l'appel de nombreux syndicats, associations, organisations politiques comme l'organisation communiste libertaire, notre organisation. Et inévitablement, dans cette triste période, on pouvait que faire une première page musicale dans cette émission en retrouvant notre ami Serge Ujiroyo, qui avec ce morceau qui a souvent accompagné ces périodes sombres de l'extrême droite, comme lors de l'incendie de la librairie La Plume Noire, notre librairie par exemple, et ben a fait résonner cette chanson Ami de sous la cendre qu'on va réécouter encore aujourd'hui, qui malheureusement est plus que jamais encore une fois d'actualité.
Des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis de sous la cendre, le feu a tout brûlé. Chasse est ouverte, cachons nos rires basanés, les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder, des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. je crie pour me défendre. À moi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire.
De retour dans Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire de Lyon. On est ensemble jusqu'à 21h. Idées Noires, c'est une émission où l'on parle de l'actualité politique et sociale. Et justement, on va ouvrir une nouvelle page sociale avec deux gros sujets qui sont encore et toujours d'actualité. Ces deux sujets, ce sont ceux de l'assurance chômage et de l'aide à la protection à l'enfance.
Exactement, parce qu'on l'a dit dans les annonces, demain, jeudi 27 juin, deux rendez-vous sur ces deux sujets. Tout d'abord sur l'assurance chômage, une manifestation appelée par plusieurs unions départementales syndicales à l'initiative de l'UDCGT du Rhône, 15h, quai aux gagneurs devant la préfecture pour dénoncer la réforme de l'assurance chômage, puisque le Conseil d'État a rendu pas plus tard qu'hier, mardi 25 juin, son avis sur le projet de décret qui réforme l'assurance chômage, qui a été déposé par le gouvernement. Un décret qui fixe les nouvelles règles en vigueur à partir du 1er décembre prochain et qui va appauvrir plus d'un million de demandeurs d'emploi et en exclure 300 000 autres de leur droit au chômage. Et donc, face au maintien de ce projet de réforme en pleine période d'élections législatives anticipées, cinq syndicats ont lancé donc des manifestations et rassemblements partout en France demain, jeudi 27 juin. Alors, on vous le disait, le Conseil d'État a rendu hier son avis qui n'est que consultatif sur ce projet de décret qui lui a été soumis. Et à partir de là, la publication au journal officiel va pouvoir avoir lieu, comme prévu, le 1er juillet prochain. Par rapport au texte qui avait été consulté par les négociateurs et des organisations syndicales, le texte qui ressort est finalement pratiquement inchangé. En particulier, il maintient toutes les mesures de durcissement de l'accès au droit, avec le rallongement de 6 à 8 mois de la période travaillée nécessaire pour ouvrir des droits au chômage, mais il maintient aussi la baisse drastique de la durée d'indemnisation ou encore les coupes dans les protections jusqu'ici accordées aux seniors qui étaient privés d'emploi. On sait que la situation elle va être pratiquement relativement dramatique, puisque c'est 1 million 300 000 personnes qui vont être précarisées par cette réforme, et puis c'est 300 000 autres qui seront tout bonnement, eux, exclus de leur droit à l'indemnisation si cette réforme elle passe. C'est un tour de vis qui n'a jamais eu lieu. C'est une réforme qui est particulièrement brutale et violente, une réforme qui rapporterait entre 4 et 5 milliards d'euros par an d'ici 5 ans selon l'UNEDIC au ministère du Travail, et réaliser de telles économies est tout simplement difficilement justifiable puisque les comptes de l'association gestionnaire sont solidement repassés au vert depuis 2022, qui était une année qui avait été marquée par un excédent déjà de 4,3 milliards d'euros. Donc le financement du chômage est tout à fait possible, c'est absolument pas un problème économique, même dans cette logique capitaliste et libérale, mais c'est pas ce que recherche le gouvernement. Il cherche à faire des économies par tous les moyens et récupérer de l'argent partout où il y en a, et puis derrière il y a une vieille aussi morale et idéologie culpabilisatrice et travailliste qui veut faire passer les chômeurs pour des feignants et des profiteurs, et que c'est que le retour au travail doit se faire de façon coercitive, et que toute logique qu'ils considèrent comme étant de l'assistanat doit être bannie. En tout cas, nous, ce qu'on en retient, c'est que tout simplement c'est quelque chose qui est extrêmement grave, qui va creuser un peu plus les inégalités et précariser des pans entiers des classes populaires qui sont déjà parmi les plus fragilisés. On peut aussi s'interroger sur cette volonté de continuer à passer en force sur ce soi-là, alors que avec l'annonce de la dissolution a été suspendu par exemple tous les travaux de l'Assemblée, et que de nombreuses lois qui étaient discutées, comme par exemple celle qui pourrait apparaître comme progressiste, comme la loi sur la fin de vie, sur le droit à choisir sa mort dans la dignité, a été tout bonnement suspendue et écartée. Et on pourrait se dire que cette réforme de l'assurance chômage, elle pourrait être elle aussi suspendue jusqu'au lendemain du 7 juillet. Et non, le gouvernement fait tout pour qu'elle soit publiée comme il l'avait prévu au Journal officiel le 1er juillet prochain, et que celle-ci puisse rentrer en vigueur au 1er décembre prochain, avec toutes les conséquences sociales dramatiques qu'elle contient et qu'on vient d'évoquer. Voilà, ça c'est la première information sociale sur laquelle on voulait revenir, et donc on vous rappelle que c'est pour ça que plusieurs unions syndicales appellent à un rassemblement demain, jeudi 27 juin à 15h, quai aux Gagneurs, devant la préfecture du Rhône. Et puis demain, jeudi 27 juin, on vous l'a dit, c'est aujourd'hui... C'est aussi une journée de mobilisation pour la défense de la protection de l'enfance, pour dénoncer le sabotage de la protection de l'enfance, pour dire non aux politiques de tri social et à la baisse des moyens, puisque depuis 20 ans, les conditions d'accueil des enfants et des adolescents qui sont pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance se dégradent massivement, du fait tout simplement du désengagement qui a été choisi par l'État dans le domaine éducatif, médical et bien sûr social, que les sous-dotations qui sont dues aux politiques d'austérité, elles génèrent et elles imposent de la maltraitance institutionnelle aux jeunes, aux familles et aux professionnels qui les accompagnent, et que les travailleurs du secteur social sont particulièrement inquiets. Ils le sont d'autant plus dans le contexte politique actuel, parce qu'on sait que si l'extrême droite arrive au pouvoir, elle ne ferait qu'accentuer, renforcer ses manques, et une politique réactionnaire d'exclusion, de discrimination et de casse de l'ensemble des services publics, et à craindre en cas d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, comme bien sûr une politique antisociale pour les personnels qui s'accompagnerait par une baisse des salaires, par une baisse de la prise en charge et des moyens pour l'ensemble des secteurs éducatifs, de sociaux et de soins à destination des jeunes. C'est donc pour ces raisons-là que de nombreux syndicats du secteur santé sociale, mais aussi, on vous l'a dit, des associations de défense du droit à l'enfance appellent à se mobilisés contre ces manquements qui impactent donc gravement l'accueil et l'accompagnement des enfants et des adolescents et leur scolarisation ainsi que leur parcours d'études et leur avenir professionnel. Et ils appellent donc, on vous le disait, demain un rassemblement à 10h dans le Palais des Congrès, à 12h un pique-nique revendicatif avec des prises de parole et à 13h30 une manifestation qui partira du Palais des Congrès jusqu'à la préfecture où donc elle convergera et elle fera jonction avec la manifestation de 15h pour la défense du droit au chômage contre la réforme de l'assurance chômage. Voilà donc les deux rendez-vous sociaux de demain sur lesquels qu'on voulait mettre un petit peu en lumière.
Juste pour le contexte, ça va se passer devant le Palais des Congrès de Lyon parce que justement se tiendront les assises de la protection de l'enfance qui eux sont soutenues par le gouvernement et qui permettent simplement aux pontes du domaine, comme le dit le communiqué intersyndical, de s'offrir une parenthèse petit four à 450 euros la place quand même. Hein.
En faisant purement de la représentation et des discours sans lendemain et absolument pas concrets pour la défense concrète des enfants.
Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une petite page écologie ?
Eh bien oui, puisqu'on le sait, hein, on l'a dit, on en a parlé, pas plus tard qu'il y a 15 jours dans cette émission Idées Noires avec des invités, que l'écologie sans la lutte de classe, bah, c'était du jardinage ou du coloriage, selon les cas, et que fin du mois, fin du monde, bah, c'est souvent lié. Alors, à nous de faire le lien, justement. C'est aussi notre rôle de militant révolutionnaire.
Et du coup, on va faire un petit détour hein, par la 69, cette très courte autoroute qui reliera peut-être un jour Castres et Toulouse, qui menace à la fois la biodiversité et les finances publiques, tout ça pour faire gagner un malheureux petit quart d'heure aux usagers. Plusieurs nouvelles donc à ce sujet. Déjà, le Conseil d'État, encore lui, hein, tu nous en parlais là à l'instant, David, à propos de l'assurance chômage. Eh bien, le Conseil d'État a rejeté hier les pourvois en cassation du collectif La Voix est libre et de plusieurs usagers de la future bretelle. Je vous passe les détails techniques, hein, parce que c'est un peu long, compliqué et pas vraiment intéressant. Mais pour résumer, comme le fait le journal La Dépêche, La Voie est libre, opposée à l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, avait déposé un recours devant le Conseil d'État au sujet de la portion de 8 km à peine reliant l'A69 à l'autoroute Albi-Toulouse, l'A68, qui est en train d'être élargie par l'entreprise ASF, les autoroutes du sud de la France. Les opposants demandaient l'annulation du contrat permettant les travaux en estimant que la durée de concession accordée pour cette portion était irrégulière. Bien, le Conseil d'État a rejeté cette requête. Ensuite, Julien Lassalle, candidat nouveau Front Populaire dans la troisième circonscription du Tarn, donc directement impacté, a envoyé une lettre aux élus concernant ce projet. Ça s'est passé hier, si je ne dis pas de bêtises. Il évoque les tensions qui montent à ce sujet et évidemment il condamne les violences envers les personnes sans préciser lesquelles et il appelle au calme et au dialogue. Il propose donc un moratoire, on imagine que ça veut dire au moins la suspension des travaux, le temps de pouvoir discuter du bien fondé du projet. Une position donc assez tiède, mais qui a au moins l'avantage de rappeler trois problématiques essentielles soulevées par ces travaux. L'aspect environnemental d'une part, avec l'artificialisation des sols. Ensuite, l'aspect économique et social, avec le gouffre financier que ça représente et les tarifs délirants qui seront demandés aux usagers pour contrer la non-rentabilité du projet. Et enfin, le volet transport, puisqu'il évoque dans sa lettre la mobilité décarbonée comme alternative à ce projet. Sauf que voilà, le même jour, dans l'émission C'est à vous, sur France 5 hier, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a elle annoncé, elle qui pourtant a annoncé soutenir le Front Populaire, a affirmé que le moratoire sur les grands projets routiers prévus par le nouveau Front Populaire ne concernerait pas l'A69. Elle a dit, pour se justifier, que les travaux sont quasiment terminés et que 50% du projet a déjà été payé aux entreprises, donc on ne peut pas revenir en arrière d'après elle. Pour vérifier ça, une équipe de France 3 Occitanie est allée sur place avec deux membres du collectif La Voix est libre. Résultat, le retard s'accumule, il serait d'un an au total, et sur les 44 km de route à créer, 17 seraient vierges de tous travaux. D'après Geoffroy Tarroux, membre de La Voix est libre, c'est vraiment une illustration des mensonges du concessionnaire qui veut nous faire croire que sur 100% du tracé, il y a des travaux. C'est totalement faux. Ici, il y a des zones humides. Il y a un pont qui n'a toujours pas été fait alors qu'il devait être réalisé il y a 10 mois de ça. Ils ont un retard considérable et d'après lui, le retour en arrière est totalement possible. On pense donc fort aux deux militants blessés et hospitalisés dimanche dernier. Hein. Ces deux personnes dormaient dans un chêne multicentenaire menacé par ce projet d'autoroute. On pense aussi à toutes les blessées lors de la marche pacifique qui a eu lieu début juin et qui a rassemblé près de 6000 personnes. Face à elle et eux, 1600 policiers et gendarmes, des grenades lacrymo, des grenades assourdissantes, des motos, des blindés et même des hélicoptères. Tout ça pour une balade naturaliste, des tables rondes et une opération de plantage de semis. Voilà, donc pour un projet qui finalement peut tout à fait être stoppé. Et puis pour en rester sur l'écologie, on en parle un petit peu moins, mais ça reste un sujet important dans les luttes actuelles. Il s'agit des méga-bassines et du droit à l'eau. Les projets de méga-bassines continuent. Mais si je vous en parle, c'est pour mettre en avant un article publié dans la revue L'Histoire en avril dernier. Ça fait donc 2 mois que j'ai envie de vous en parler, mais que l'actualité prend le pas sur ce sujet. Il s'agit d'un article qui retrace l'histoire du droit à l'eau et la façon dont cette ressource a, dans l'histoire, été d'abord protégée, puis petit à petit commercialisée avec la montée du capitalisme et du libéralisme. Le titre, c'est tout simplement « L'invention du droit à l'eau ». Et voilà ce qu'il nous raconte, je me suis permis de vous le résumer. Ressource présente naturellement sur Terre, l'eau est essentielle pour les humains. À ce titre, elle fut dès l'Antiquité protégée par des règles juridiques. Le code d'Hammurabi, roi de Babylone, établi vers 1700 avant notre ère, des normes pour l'entretien des systèmes d'irrigation. Sous l'Empire romain, le droit définit l'eau comme un bien commun, res communis, ça me rappelle quelque chose ce mot d'ailleurs, qui ne peut pas être commercialisé. C'est avec la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'ONU, en 1945, qu'une véritable gouvernance mondiale de l'eau fut alors envisagée. La première conférence des Nations Unies sur l'eau se tient à Mar del Plata, en Argentine, en mars 1977. Réunissant 116 États, elle aboutit à l'adoption, à l'unanimité, de résolutions concernant la gestion de l'eau. En 2010, un nouveau pas est franchi alors que les 193 États membres de l'Assemblée Générale de l'ONU adoptent une résolution qui reconnaît le droit à l'eau potable et à l'assainissement sûr et propre comme un droit humain essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Le problème, c'est que l'accès à l'eau posé comme un droit humain essentiel se heurte parfois aux intérêts du secteur privé. L'économiste Sylvain Leder rappelle qu'en 1992, lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau à Dublin, pour la première fois, cette ressource a été officiellement, internationalement, reconnue comme un bien économique. Pour l'économiste et politiste Ricardo Petrella, une oligarchie mondiale de l'eau s'est mise en place avec, explique Sylvain Leder, à sa tête la Banque mondiale à l'origine de la création, en 1996, du Conseil mondial de l'eau, dirigé à l'époque par des hauts cadres de multinationales comme Suez et Vivendi. Ce conseil, il a pour mission de définir une vision mondiale de cette ressource dans un cadre libéral. La dimension opérationnelle est assurée par le Partenariat mondial de l'eau, créé la même année pour favoriser les partenariats entre le public et le privé. L'eau douce, qui constitue un marché de plus de 600 milliards d'euros, est au cœur des enjeux économiques du XXIe siècle. Un tiraillement existe entre les impératifs humanistes du droit à l'eau et la logique du profit de la marchandisation des ressources naturelles, dont on perçoit aujourd'hui de façon plus aiguë la valeur et la fragilité. Voilà donc le résumé d'un article passionnant que vous pouvez retrouver sur le site du magazine L'Histoire et qui vous donnera au passage quelques billes et quelques arguments historiques contre la privatisation de cette ressource si jamais vous en venez à devoir discuter avec une personne qui est pour les méga-bassines.
Et ben c'est sur ces belles paroles qu'on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire sur 102.2 de Radio Canu. Par ces temps sombres où la peste brune rôde, on va retrouver les Inner Terrestrial, les Inner Terrestrial qui nous chantent à juste titre White Nightmare, le cauchemar blanc, pour dénoncer tous les cauchemars qui tourneraient autour de ceux qui veulent leur instaurer un ordre blanc. Nightmare, cauchemar blanc, nous chantent les Inner Terrestrial à propos de tout risque de voir arriver les suprémacistes blancs, ceux qui veulent le white power au pouvoir, quelle que soit leur étiquette, RN ou autre. En tout cas, face à eux, ils ne passeront pas nos passarans. C'est ce qu'on va s'employer à faire résonner et à faire flotter partout où on puisse le faire, afin de faire barrage par tous les moyens possibles à l'extrême droite. On vous rappelle rappellera les rendez-vous, notamment de la manifestation de vendredi soir dans ce sens-là, à la fin de l'émission. Mais avant ça, on va terminer par une petite page internationale. Petite page internationale qui nous amène d'abord du côté de la Kanaky. La Kanaky qu'on classe du côté des pages internationales, comme à chaque fois. Parce que le temps des colonies, bah, ça suffit, tout simplement. Hein, la colonisation française en Kanaky, ça suffit. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, mais la venue d'Emmanuel Macron dans ce territoire où il a affirmé ne vouloir ni retrait ni report, mais appeler au calme, en fait, a semé encore plus de confusion et a ancré un climat de peur et de deuil dans ce territoire. La dissolution de l'Assemblée nationale a en plus détourné les médias du problème qu'il est pourtant toujours aussi urgent de résoudre, ce qui est tout simplement celui de la fin de la colonisation de la Kanaky. On vous le rappellera, la Kanaky ou Kanaky Nouvelle-Calédonie, bah c'est un archipel qui est situé dans l'océan Pacifique, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est inscrit à la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, que les accords de Nouméa en 1998 étaient censés lancer d'ailleurs un processus de décolonisation sur 20 ans, qui devait aboutir à une série de 3 référendums sur la pleine souveraineté de la Kanaky. Mais l'État français veut tout simplement conserver sa main pour des intérêts géopolitiques et économiques, parce que la Kanaky possède une proximité géographique avec la Chine, mais aussi des ressources maritimes et minières. En tout cas, pour notre part, à l'UCL, à l'Union communiste libertaire, on a dénoncé, y compris sur cette antenne, à plusieurs reprises, cette situation qui, depuis plusieurs semaines, a été marquée par des révoltes qui ont débuté lorsque la police a ouvert le feu sur des manifestants et manifestants qui s'opposaient à la réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle qui prévoyait en effet un dégel du corps électoral en Kanaky. En fait, il s'agit d'élargir le corps électoral pour y intégrer les derniers arrivants qui sont majoritairement qui viennent de France, et pour accentuer la mise en minorité des Kanaks sur le plan politique. L'objectif est donc d'autoriser toute personne installée depuis 10 ans sur le territoire à devenir électrice, ce qui vaudrait ajouter plus de 25 000 nouveaux électeurs à une liste électorale qui en compte simplement 180 000, ce qui est considérable. Et puis, on a appris la semaine dernière, le 19 juin dernier, là, ce qui est particulièrement grave, l'arrestation de 11 figures indépendantistes, notamment du mouvement syndical CCAT. Leurs bureaux ont été perquisitionnés dans la foulée, car ces figures du mouvement sont accusées d'être responsables des révoltes que le gouvernement français a lui-même provoquées en faisant ouvrir le feu par sa police sur le peuple kanak, comme on le disait, lors d'une manifestation, et par son passage en forme d'une réforme coloniale sans aucune concertation. Hein, c'est essentiel pour toute colonisation de peuplement, comme l'était l'Algérie, depuis 171 ans, l'État français a d'abord décimé les Kanaks, puis il a organisé le remplacement de la population autochtone par des vagues d'immigration. L'État français n'a pas renoncé à son empire colonial, en réalité, il déstabilise fortement les sociétés encore colonisées, confrontant les peuples à une violence extrême, de la part de la police française par exemple, mais aussi de milices de colons qui veulent conserver leurs privilèges qui est lié à la situation coloniale. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est temps que l'État français se retire de ce territoire qui est situé à plus de 22 000 km de Paris, qu'il viendra le temps pour les habitants de la Kanaky de décider par eux et elles-mêmes de la société future qu'ils veulent construire, en retrouvant dans le même temps leur accès aux droits les plus fondamentaux, c'est-à-dire le droit à leur histoire, à la terre, à la culture, à la dignité et tout simplement à l'autodétermination. Que la solidarité avec tous les peuples et les organisations anticolonialistes de l'UGTC de Guadeloupe jusqu'au FLNKS de Kanaky qui subissent et qui luttent contre la politique coloniale de l'État français dans ces territoires dits d'outre-mer ou dans les pays décolonisés, toujours sous influence, et ben elle est nécessaire. On doit apporter une solidarité complète avec le peuple kanak et au mouvement indépendantiste dans son ensemble. 171 ans d'occupation coloniale, ça suffit. Il est fini le temps des colonies, c'est ce qu'on voulait dire dans cette page internationale à propos de la Kanaky.
Et puis, on va rester sur les territoires occupés, puisqu'on va se diriger vers le Kurdistan turc. Alors habituellement à la fin du mois, c'est le moment où je peux vous révéler en exclusivité les sujets qui paraîtront dans le prochain numéro de notre journal Alternative Libertaire. Mais ce mois-ci, l'UCL a fait le choix de repousser la publication de son numéro d'été, qui sera plus long et avec un dossier thématique. Cette raison, c'est bien évidemment les élections législatives qui vont avoir lieu ce week-end et le suivant, puisque notre pays ne sera pas le même selon qui l'emporte. Donc plusieurs thématiques de notre journal qui sont intimement liées à la situation politique et sociale de la France vont aussi en dépendre. Vous avez donc quelques jours de rab si vous ne vous êtes pas encore procuré le numéro de juin, puisque celui de juillet a été reporté. Et pour vous donner envie, je voulais cette semaine vous parler d'un sujet que l'on retrouve justement dans ce numéro. C'est un sujet qui nous fait quitter la France, mais qui ne nous éloigne pas beaucoup du fascisme et du nationalisme, puisque, je vous l'ai dit, on se dirige vers le Kurdistan turc. Pour rappel, le Kurdistan, c'est ce territoire à cheval entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et, dans une moindre mesure, sur une petite partie de la Syrie, et dont une grande partie de la population ne reconnaît pas son appartenance à ces pays-là. Eh bien, en Turquie, dans la partie turque du Kurdistan, le parti du président Erdogan, l'AKP, déploie tous les moyens à sa disposition pour détruire la résistance kurde. Fin avril, l'armée a attaqué une partie du Kurdistan au nord de l'Irak en visant la guérilla du PKK. Le PKK, c'est le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation encore considérée aujourd'hui comme terroriste par la Turquie et par l'OTAN, alors qu'elle leur a pourtant servi d'allié pour combattre notamment Daesh. D'autres stratégies sur le territoire kurde en Turquie sont mises en place pour construire un discours nationaliste favorable à l'AKP, le tout en effaçant l'existence culturelle des Kurdes. Depuis la création de l'État turc à la fin de la Première Guerre mondiale, les Kurdes subissent la répression et voient leur culture et leur droit à l'exprimer se restreindre à travers la vente de bâtiments publics, la destruction de parcelles historiquement et symboliquement riches ou la fermeture d'associations pour la culture kurde. Et c'est justement ce que cet article détaille. On a une camarade qui a eu la chance d'aller sur place et qui est revenue avec des exemples très parlants d'effacement de la culture kurde. Par exemple, pardon, la ville d'Ahmed en kurde ou Diyarbakir pardon pour ma prononciation en turc, considérée comme capitale culturelle du Kurdistan, a été entre 2015 et 2016 le théâtre de violentes interventions militaires turques. Elles ont mené notamment la destruction d'une partie du centre historique de cette ville nommée Sur et des siècles d'histoire que ce centre historique portait. En 3 mois d'affrontement, un tiers de ce centre historique de Sur a été détruit, reconstruisant sur les ruines. Le gouvernement turc en a profité pour imposer ses choix en uniformisant l'avenue principale, pourtant autrefois symbole de la multiculturalité de ce quartier. Ce sont des maîtres de façade, de boutiques identiques qui s'étalent jusqu'au rempart de la ville, rempart datant de l'époque romaine où flotte désormais le drapeau turc qui rappelle que le territoire a bien été conquis par la Turquie. Des habitantes et habitants ont même été forcés de quitter leur logement, racheté à bas prix par l'État, qui a placé des militaires, des policiers et des fonctionnaires donc de l'AKP, le parti de l'État d'Erdogan, poussant ainsi à l'éclatement des liens sociaux construits par les Kurdes. Une autre ville du Kurdistan a subi une destruction massive de son patrimoine et de sa mémoire. C'est Eskif en kurde ou Hasankeyf en turc, dont la mémoire a été littéralement noyée, puisque le projet de construction d'un barrage sur le fleuve Tigre est en cours depuis la fin des années 1990 et il a fallu attendre 20 ans pour que la ville d'Eskif soit totalement immergée. En juillet 2020, le gouvernement turc a défendu ce projet en prétextant le développement économique dans la région du sud-est à majorité kurde, mais dans les faits il s'agit surtout d'un argument géopolitique pour influer sur les pays voisins afin de supprimer une partie de l'histoire kurde de la région. Je vous laisse découvrir cet article que vous pouvez retrouver dans le numéro de juin d'Alternative Libertaire. Et puis, si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi le retrouver sur notre site unioncommunistelibertaire.org.
Voilà, c'est là-dessus qu'on termine cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Rendez-vous mercredi prochain sur cette antenne, 20h pour un nouvel acte de Idées Noires. Moi, je vous retrouve juste après notre générique pour la bande-son de nos révoltes. Et puis, on vous rappelle le principal rendez-vous de cette fin de semaine. On se retrouve tous vendredi, 19h, place des Terreaux, contre cette manifestation, contre l'extrême droite, pour rappeler encore une fois que l'extrême droite au pouvoir, on n'en veut pas, et qu'on fera tout ce qui est possible pour l'en empêcher d'y arriver. Voilà, c'est avec ces paroles qu'on termine cette émission Idées Noires à vendredi soir dans la rue.